singapourienne, en fait. Aujourd'hui, l'IPAL concentre ses recherches sur les villages intelligents, sur les villes intelligentes, c'est les villages intelligents, sur les villes intelligentes, inclusives et la santé numérique, conformément au programme Smart Nation de Singapour. Notre ambition, mesdames et messieurs, d'ici la fin de 2018, est d'aider les acteurs français et singapouriens à mieux se connaître ou, tout du moins, à chercher à mieux se percevoir comme partenaires possibles. Nous sommes très attachés à l'idée d'inclure tous les acteurs concernés dans cet exercice. Mes collègues et moi-même sommes curieux de connaître vos propositions concernant la manière de faire que cette année de l'innovation réponde au mieux à vos intérêts respectifs. Et pour conclure, j'espère vous avoir donné en fait matière à réflexion. N'hésitez pas à vous rapprocher de mes collègues, de moi-même. Andrea est ici, et Teddy aussi, et Teddy, mon collègue de l'ambassade, est ici. Nous sommes ici tout le long de la soirée. Nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et pour finir, je vous remercie en fait, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, cher ami. Et merci, MEDEF, pour cette soirée, pour cette manifestation. Merci à vous aussi d'avoir m'écouté. Merci.
Merci, monsieur l'ambassadeur, cher Rénal. Merci beaucoup pour ce discours en français remarquable. Bravo, je suis toujours étonné que je t'entends, c'est fantastique. Oui, Singapour, je le rappelais tout à l'heure, fait donc partie des trois pays aujourd'hui qui, selon moi, et l'ambassadeur l'a bien rappelé, ont une vraie stratégie à 20 ans avec des financements associés, une vision avec l'Estonie et Israël. Alors, tout ça repose sur, évidemment, des forces, des faiblesses. Dans les forces, c'est cette vision stratégique. Le programme Smart Nation dont on a parlé, qui vise à faire monter en compétences l'ensemble de la population pour qu'elle soit employable à un niveau élevé, je dirais, de qualification tout au long de sa vie, est un des seuls programmes qui existent dans le monde de cette façon-là. Ce programme s'appuie sur un soutien à l'innovation et à la création d'entreprises extrêmement fort via des agences publiques comme Spring, donc à Singapour, avec une politique publique extrêmement claire, des soutiens sous forme de subventions, de prêts ou d'investissements, mais également, et ce n'est pas signalé ici, sur une excellente infrastructure en termes d'éducation. Singapour, aujourd'hui, à Singapour, vous avez les plus grandes écoles du monde qui ont ouvert des filiales, que ce soit donc le MIT ou que ce soit des groupes français comme l'EDEC ou d'autres écoles. Énormément de grandes universités sont présentes à Singapour et il faut savoir qu'il y a environ 20 000 graduates par an dans le domaine des technologies à Singapour, ce qui est énorme quand vous voyez que ce pays fait 5,5 millions d'habitants et qu'il n'est pas plus grand que les Hauts-de-Seine. Il faut savoir que c'est un pays qui est obligé de gagner sur la mer depuis 40 ans, donc d'innover en permanence, de se remettre en cause en permanence. C'est un pays qui est passé par plusieurs phases industrielles et qui, face à la montée des concurrences régionales, la Chine, puis ensuite l'ASEAN, a été obligé sans arrêt de bouger forward, d'aller plus loin en avant pour aujourd'hui arriver à cette stratégie Smart Nation qui est extrêmement détaillée et très précise. Dans les avantages ou les forces, on a également la qualité des infrastructures, que ce soit au niveau du haut débit ou que ce soit au niveau des data centers. Il est vrai que là, pour le coup, le territoire est beaucoup moins compliqué à équiper que les Philippines, par exemple, qui c'est un territoire beaucoup plus grand et beaucoup plus diversifié au niveau topologique. Et puis, tous les grands acteurs IT mondiaux sont présents là-bas. C'est un peu comme Israël. Vous avez vraiment un grand nombre de grands groupes qui sont venus implanter leur R&D, étant donné qu'ils peuvent y trouver des talents disponibles et un accès à un vaste marché qui est l'Asie du Sud-Est, mais qui est l'Asie dans son ensemble. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, entre les Philippines et Singapour, vous avez deux hubs, deux porte-avions finalement pour vous, d'un côté plus industriel peut-être, de l'autre plus Smart Nation innovation de l'autre, mais qui peuvent vous permettre réellement de bâtir une stratégie sur l'Asie. On a également la qualité de vie et la stabilité. 30 nations d'expatriés sont représentées à Singapour. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de vie, au niveau même de, je dirais, l'hygiène, au niveau de la sécurité, au niveau... Singapour est un pays-ville extrêmement agréable à vivre. Maintenant, du côté des faiblesses, bah oui, il n'y a pas de marché local. Donc, on ne va pas à Singapour d'abord pour faire de l'expansion en termes de business sur le marché local. On vient à Singapour pour s'appuyer sur des ressources, s'appuyer sur des compétences, s'appuyer sur des dispositifs, s'appuyer sur une aussi, Reynald n'en a pas parlé, mais finalement, très forte sécurité et stabilité financière. C'est important quand vous allez dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, ou l'Asie en général, de trouver des pays où vous êtes. Ce que je vous ai rappelé avec le droit anglo-saxon aux Philippines, ou la dimension assez anglo-saxonne aussi à Singapour dans la pratique des affaires, mais Singapour, quand vous mettez de l'argent là, vous installez votre société, vous êtes tranquille. D'ailleurs, c'est ce qui a valu pour moi à Singapour de prendre le leadership sur Hong Kong dans bien de domaines, notamment dans les fintech, et ça j'ai été très surpris, mais l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, j'y reviendrai, ce vaste mouvement de dérégulation qu'il y a eu à Singapour a pris de vitesse Hong Kong, qui est véritablement aujourd'hui derrière Singapour dans ce domaine-là. Et beaucoup d'acteurs que j'ai rencontrés, de grandes banques, de grands acteurs des fintech, veulent venir à Singapour pour s'installer, faire leur labo et pouvoir créer les solutions qu'ils implémentent tout de suite. Hein, que ce soit d'ailleurs, j'ai assisté à un forum là-bas quand j'y étais, qu'ils implémentent tout de suite dans des banques en Inde ou dans d'autres parties de l'Asie. Au niveau des faiblesses, donc les conditions d'immigration durcies, il y a eu une contrition économique à Singapour ces dernières années qui a amené le gouvernement aussi à privilégier évidemment la population locale dans les emplois et donc à restreindre les conditions d'immigration. Chose qui se gère très bien d'après les start-up et on verra tout à l'heure, mais les deux intervenants nous en parlaient. Le coût des talents qui est évidemment plus élevé et le plus élevé de la zone puisque le coût de la vie est assez important et évidemment les talents disponibles sur Singapour sont à un prix plus élevé que dans d'autres qu'aux Philippines par exemple. Le coût de la vie est élevé également et les facteurs culturels. Alors c'est une culture très sous influence chinoise à Singapour, même si les Singapouriens ont leur propre identité évidemment et leur propre destin et devenir. Cela dit, il faut quand même bien prendre ça en compte. Quand on vient faire des affaires, c'est pas pour le coup la même chose qu'aux Philippines. Et donc, il faut prendre bien ces informations avant de partir pour s'adapter au contexte. Sur les opportunités, bah évidemment, créer des laboratoires de R&D, de l'open innovation, avec les universités ou les centres de recherche à Singapour, et la ville est très ouverte à ce type de coopération, c'est très intéressant dans les domaines qu'on rappelait tout à l'heure. Tout ce qui va être autour de la ville intelligente, la mobilité, l'énergie, tout ce qui va être sécurité, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, infrastructures également. Création de studios de développement dans les médias, le gaming, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Je vous l'ai dit, Ubisoft est présent à Singapour depuis de nombreuses années, mais beaucoup d'autres studios et beaucoup d'autres sociétés de vidéos, de games se sont installées à Singapour pour la qualité justement des talents disponibles et des infrastructures disponibles. Vous n'avez pas de problème de très haut débit pour avoir sur des applications qui doivent tourner en réalité virtuelle ou augmentée avec de très fortes puissances. Et puis, l'implantation d'un siège régional pour ensuite rayonner sur la zone pour une start-up me semble très intéressant. Si c'était une PME industrielle, je l'encouragerais plutôt à aller aux Philippines. Mais c'est là où on peut s'installer pour commencer à se poser et puis aller faire... D'ailleurs, j'ai rencontré plein de Français qui avaient installé leur siège là et qui allaient faire soit des bureaux, soit des missions en Indonésie, en Malaisie, dans le reste de l'Asie du Sud-Est, mais à partir de Singapour. Pour les start-up, c'est un peu plus difficile. Il faut avoir un peu d'argent. Donc, Singapour étant quand même avec un niveau de vie plus élevé, il faut savoir quand on est une start-up qu'on va à Singapour une fois qu'on a passé un certain nombre de steps, je dirais, ici en France et en Europe et qu'on arrive avec les reins assez solides. Mais Mathieu pourra nous en parler tout à l'heure. Sur l'écosystème maintenant lui-même, alors au niveau Startup Nation, donc... il faut savoir que c'est donc un des meilleurs systèmes d'enseignement supérieur d'Asie. 52%, je ne sais pas si le chiffre est là, si des créateurs de start-up à Singapour ont un master ou un PhD. Donc il faut en avoir conscience, c'est un haut niveau de qualification. Les dispositifs publics de soutien à l'innovation sont très puissants. Et donc, pour créer sa start-up, il n'y a aucun problème pour trouver de l'argent en seed ou en early stage et pour trouver une structure, que ce soit de coworking, d'incubation ou d'accélération, qui va vous accueillir. Mais ça, Ethan pourra nous en parler de Nest Venture. Les dispositifs, les start-up SG, donc programme de soutien aux start-up de l'agence gouvernementale Spring. Il y a 6 programmes de soutien. Tout est détaillé dans le rapport que vous avez là, mais vous verrez que donc il y a vraiment qu'à choisir pour pouvoir créer sa start-up à Singapour. Sur le scale-up écosystème, là encore, l'État accompagne énormément la croissance des entreprises et les plus prometteuses, avec là aussi beaucoup de dispositifs. L'État accompagne également les PME. Il y a des prêts pour les PME. Aujourd'hui, vous avez un tissu d'ETI, en fait, d'entreprises de taille intermédiaire familiale à Singapour, très important. L'économie singapourienne s'est structurée autour de ces entreprises familiales qui sont devenues des entreprises, des grosses PME, ce que nous, on appelle les ETI. Et j'ai rencontré, et je continue à collaborer avec eux d'ailleurs, les associations de family office à Singapour qui sont très, très intéressées et impliquées dans la transformation digitale de leur PME familiale. Et donc très intéressées par le programme Métamorphose, par exemple, qu'on a mis en place ici. Je suis en lien avec eux pour voir comment on pourrait leur donner le modèle de ce programme pour qu'ils l'appliquent auprès des entreprises singapourienne, encore une fois familiale et traditionnelle, qui doivent absolument, impérativement se transformer pour suivre cette stratégie Smart Nation finalement et offrir là aussi des jobs aux étudiants qui vont être formés, etc., qui auront le niveau de qualification suffisant. Et j'ai vu des PME qu'on avait vraiment conscience. Donc ça, c'est rare, il y a beaucoup de pays où on met ça un peu sous le tapis, on se dit on ne sait pas comment on va se débrouiller avec nos PME traditionnelles, on verra ça plus tard. Donc ce n'est pas le cas à Singapour. Et puis l'apparition de nouveaux VC. Alors, SME Go Digital, ça c'est les PME, donc pour les aider dans les technologies numériques. Vous avez SG Innovate, coopération entre les entrepreneurs industriels, 4 milliards de dollars dédiés à la transformation de l'industrie. On est plus là sur l'industrie 4.0. Et puis l'apparition de nouveaux VC et de fonds d'entreprise. Il y a énormément de fonds d'investissement. J'ai dans le rapport mis le rapport de 500 Startups qui a fait un outil pour pouvoir mesurer l'investissement à Singapour. Vous verrez donc dans le rapport des chiffres assez impressionnants. Donc, ce n'est absolument pas un problème. Mais là encore, Nest Venture nous parlera du marché du venture beaucoup mieux que moi. Sur la digital transformation, donc je vous ai parlé de ce programme Smart Nation lancé en 2014. L'objectif, c'est et puis l'ambassadeur nous l'a rappelé, améliorer l'usage qui est fait des technologies, notamment pour la résolution de problèmes sociétaux, d'où la partie fintech et la partie ville intelligente, qui sont deux piliers très importants de cette Smart Nation stratégie. Et puis c'est 19 milliards de dollars annoncés pour soutenir la recherche de solutions qui répondent aux défis nationaux. Smart Nation, ce que je vous le disais, sur 20 ans, c'est à peu près 20 milliards de dollars qui vont être investis. Les crédits sont déjà bloqués. Enfin, il y a une grande visibilité pour les acteurs. C'est très important car quand vous implantez dans un pays, vous avez besoin de visibilité. Que va-t-il se passer? Quels vont être les programmes? Et Singapour offre cette visibilité et cette stabilité. Enfin, du point de vue... toujours sur alors, catalyseur de la Smart Nation, favoriser l'apparition de Smart Solutions, de cultiver la culture de l'expérimentation et de l'innovation. C'est vrai que, par exemple, MIT à Singapour teste énormément de choses en termes de ville intelligente qui va exporter après dans le reste du monde, avec les autorités de Singapour. Et puis, améliorer les connaissances informatiques. Alors, il faut savoir que ce programme Smart Nation démarre à la maternelle. Moi, j'étais dans un accélérateur, enfin une sorte de Fab Lab en visite, dans un organisme d'ailleurs gouvernemental de Singapour, qui est là pour aider les startups à se développer dans le hardware. Et j'ai vu débarquer une classe de maternelle avec leurs petits uniformes, donc des gamins de 8-9 ans, qui venaient au Fab Lab pour la matinée et qui venaient donc en fait en apprentissage pour faire des outils connectés. Donc ils arrivaient dans le Fab Lab, on leur donnait une petite pochette avec à l'intérieur une petite batterie, un capteur, un truc, et on les disait, allez jouer, fabriquez-nous quelque chose. Et donc, dès le plus jeune âge, les Singapouriens sont mis en contact avec la technologie, ça fait partie de leur cursus, et ils doivent faire des ateliers pour apprendre à fabriquer ce que nous, on a préconisé donc, pour les écoles françaises, pour essayer d'introduire cette hardware, IoT, mécanique, tous ces cours autour de l'ingénierie, dès le plus jeune âge, pour essayer d'attirer des talents. Enfin, au niveau French Connection, donc vous voyez, plus de 700 entreprises françaises sont implantées à Singapour. Donc, compte tenu de la taille de Singapour, vous imaginez que c'est un chiffre très important. 50 entreprises singapouriennes implantées en France. 2018, année de l'innovation France-Singapour, dont a parlé Monsieur l'ambassadeur, et j'espère que ce sera l'occasion donc, d'avoir des délégations croisées d'entreprises avec vous. Et puis, Ubisoft, installé à Singapour de 2008, ont été convaincus par l'investissement de l'État dans les infrastructures et l'industrialisation, ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est cette visibilité qui est donnée, puis la facilité d'installation pour les entreprises, parce que ça, il faut le rappeler, pour s'installer, c'est extrêmement simple et rapide, comme aux Philippines d'ailleurs, c'est extrêmement simple et rapide, notamment parce qu'aux Philippines, vous avez des structures comme le BPO est très développé qui le font pour vous. Donc moi, j'ai rencontré des acteurs, malheureusement un peu trop américains, mais je suis sûr que des Français iront, mais qui sont capables de prendre en charge la création de votre entreprise, le recrutement des premiers talents, l'ouverture de votre premier bureau avant même que vous vous installiez réellement aux Philippines. Bon, à Singapour, c'est pareil, il y a une facilité d'installation évidente. Voilà. Pour continuer notre présentation, je vais maintenant demander à Andrea de venir faire sa présentation. Elle va vous faire une présentation de l'écosystème, donc avec l'aide de PowerPoint et de chiffres actualisés qui vont vous permettre d'avoir des précisions sur tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des chiffres, des figures. Et puis ensuite, nous passerons à notre table ronde avec Ethan et notre ami, excuse-moi, et Mathieu. Voilà. Si, je vous invite à nous rejoindre, Andrea. Vous pouvez l'applaudir. Elle va s'exprimer en anglais. Hein.
Thank you, Olivier. Bonsoir. My name is Andrea. I'm from the Singapore Economic Development Board. We are the government agency in Singapore responsible for industry development. So, unlike Kat earlier, I don't have as much that I can tell you about Singapore's natural produce or natural sites because, as many of you know, we are quite a small country. But as you have heard from our ambassador, from Mr. Olivier Midier, we are very active in digital, and that's something I would like to take you through my presentation. And my presentation will also help to provide you with more details and an illustration of what the opportunities look like for companies in Singapore in digital. So to start off with a very high-level overview of Singapore, we are a country of 5.5 million people. One in five people in Singapore are internationals, and we are a multicultural country, so we have been known to be a melting pot of cultures and therefore a breeding ground for innovation as well. Given Singapore's location in the middle of Southeast Asia and Asia Pacific, as well as our strong connectivity, we are also an effective business as well as logistics and trading hub for many companies in the region. And for Singapore, we have a very high level of mobile penetration at 150%, as you'll see at the top of the slide there. And this forms an effective basis for digital transformation and the development of innovative solutions in Singapore, which we'll talk more about in later slides. And last but not least, I would also like to highlight that Singapore's ambition really is to become a digital capital in Asia. And for that, we need to continue investing in our strengths in infrastructure as well as in talent. So just a few quick points about the business environment in Singapore. Many people will know that Singapore is very pro-business, very friendly to businesses, and you will see that this is supported by rankings on Singapore's ease of doing business. We are consistently ranked amongst the top in the world. Singapore also has a conducive tax regime to support enterprise creation and development in Singapore. And for startups, as well as for companies looking to do R&D, headquarter activities in Singapore, there is also scope for additional support from the government and concessions. So you'll see that for many of these reasons and statistics up here, Singapore has become home to a lot of international companies, as well as multinational corporations. In fact, more than 7,000 multinational corporations have regional headquarters in Singapore, and many of them also do R&D activities in Singapore. So going from the broad overview straight into what is Singapore's vision in digital. So I said we want to be a digital capital in Asia. And what that means is that Singapore is a place where companies with innovative solutions can work with end users in Singapore to develop, test, and scale these solutions and export them to the region to global markets. So if you look right in the center of the slide here, you will see the digital sector in Singapore and how we break down into the different segments. So in blue and green, you will see the segments of companies in software, IT services, media and digital entertainment, for example, that are very active in Singapore. And in the grey parts surrounding them, you will see the new capabilities that we are actively investing in partnership with the universities, in partnership with the schools, to develop these capabilities in Singapore to support the development of innovative solutions. And right in the center of the hexagon, you will see in three circles the type of talent that Singapore is focusing on developing, which is not just technical talent, but increasingly going forward, we also need that creative and that entrepreneurial talent to support innovation. Now, so Singapore is not just interesting because of the digital solution providers that are present, but the presence of end-use applications, lead demand that is in Singapore. And we classify this broadly into two pillars. So on the left, you will see one pillar around Smart Nation, which you've heard about, and this is very much to do with public services, with healthcare, transport, as housing and environment. On the right is actually Smart Industries, looking at advanced manufacturing, consumer, finance, and hub services. So just to add a bit more detail, what a lot of people may not see when they first come to Singapore is manufacturing. But in fact, 20% of our GDP comes from manufacturing, and this is in electronics, petrochemicals, pharmaceuticals, aerospace, for example. And our vision is to be an advanced manufacturing hub where companies are using digital and industrial IoT solutions to make their plants competitive. In consumer, Singapore is interesting because we are seen as a reference location for what Asian consumers are looking for business model innovation that is applicable to the region. We are also known to be a leading financial hub in the region, and for that reason, then fintech is a natural opportunity for many companies in Singapore as well, along with our vision to be one of the leading hubs for this in the region. And lastly, because of our position in providing a lot of logistics as well as professional services to the region, therefore it's also a sector that is ready to adopt and drive digital in the region. So as you've heard, Singapore is not a big end market, but what we hope to provide and what we aim to do is really to be that breeding ground for innovation where the solution providers, the technology providers can work together with the end users to co-innovate and develop in Singapore. So this slide here gives you a further illustration of the Smart Nation program that you have heard about from Ambassador, from Mr. Olivier Midier. Really, what we are trying to do here is for Singapore to be the world's first Smart Nation. And by Smart Nation, we don't just mean the city infrastructure, but we're also talking about the citizens ready to adopt and use digital in their daily lives and how they interact with infrastructure services. So this is a strategic program that reports directly to the Prime Minister's office. It's coordinated by a body that is called the Smart Nation and Digital Government Office, SNDGO, so that the government agencies in Singapore are actively working together to integrate their solutions. You'll see that there are five key application areas, such as in urban mobility, in healthcare, in the housing environment, and five of the key platforms that the government is focusing on developing to support the Smart Nation program include the e-payments, digital national identity, digital trade, as well as the IoT sensing platform, which is effectively called the SNSP, Smart Nation Sensor Platform, where we are rolling out sensors throughout the city in above ground boxes, in lampposts, so that these nodes of data can be integrated to create new services for citizens in the city. Now, for Singapore to be a smart nation, we also need to be a secure and safe nation, right? Otherwise, no one is going to want to use and adopt digital. So apart from securing the critical infrastructure in our country, we also need to secure the data that rests in Singapore because we are a regional hub for this, as well as the financial systems. And in October 2016, our Prime Minister announced the National Cybersecurity Strategy, which is a comprehensive strategy to secure Singapore as a country, as well as to develop cybersecurity as an ecosystem and opportunity in Singapore. So there are four key pillars to the cybersecurity strategy. These involve international partnerships with countries including France, the UK, US, for example, as well as working with our regional neighbors in ASEAN to develop cybersecurity talent through an 8 million euro fund. We are also actively working with the technology providers in cybersecurity to develop new solutions in Singapore. And next year, the government will be rolling out a cyber bill requiring the different government agencies to level up in terms of how they are securing the critical infrastructure networks in the country. So look out for that. It's an exciting opportunity. So I've talked very broadly about the strategy that the Singapore government is working on. And now I will cover four key focus areas to develop the digital ecosystem in Singapore. So if you start at the bottom right-hand corner in terms of digital infrastructure, Singapore is already has quite a strong position in this area because we host about 50% of data center capacity in the region. Singapore also has the second highest connectivity globally in APAC, just after Japan. And it's very much the focus area to continue increasing both the connectivity within Singapore through new communication systems like in IoT, in low power wide area networks, but also to enhance our subsea connectivity. The second part that we're focusing on is really talent to support the digital economy. And you will see that in our universities, such as NUS and NTU, there's a large pool of engineering and digital talent that is coming out. And the government is also investing a lot in R&D through a $19 billion fund for the 5 years. And in addition, we continue to roll out programs for training people in digital skill sets through the Skills Future initiative that Ambassador mentioned earlier. Now follow me then to the top left-hand corner where we talk about innovation. Singapore's strength in innovation for digital stems from a few things. Number one, a large number of the big tech companies in the world are very active in Singapore, not just using Singapore as a sales office, but a base for regional business management and innovation. Coupled with this, we have a fast-growing startup ecosystem that is now ranked number 12 in the world based on the latest rankings. In addition, a lot of the non-ICT companies in the Fortune 500 actually put digital centers of excellence in Singapore to build their internal capability in digital and to work with solution providers to co-create solutions. Now, this leads nicely into the fourth pillar, which is really partnerships. And EDB is actively facilitating these partnerships between corporates and universities, between startups and corporates. We believe that with partnerships, this is the way that companies are driving the development of new solutions going forward. And so with all this in mind, you will see that actually Singapore came up number one in the world based on an IMD report by the Swiss Business School. So we're quite pleased with that, but of course, there's a lot more to be done in this area. So I thought what would be interesting is to give you some concrete examples of what companies are doing in Singapore on the various fronts when we talk about innovation. So SAP, for example, the German software company, they have decided to set up their global machine learning center in Singapore to work on different end-use applications in cities. IBM as well, they have set up a center for blockchain innovation in Singapore, very much focused on the application to trade finance because of Singapore's strength in this area. You've heard a lot about Ubisoft. I will not go through that. And maybe worth highlighting to you would be the likes of PayPal and Leontech, which both have innovation teams in Singapore to look at payments as well as new fintech solutions. Now, apart from the technology providers, Singapore actually has a very strong base of the professional services companies that are also setting up digital teams to help their clients with their digital transformation. So if you look at the technology consultancies, Capgemini, for example, they have set up their Asian Applied Innovation Exchange in Singapore, which will connect into their 9 other applied innovation exchanges around the world to facilitate exchange of ideas and talent training. For the strategy consultancies, the likes of McKinsey have also set up digital teams in Singapore, working with Singapore to demonstrate use cases in digital manufacturing for their clients. And increasingly with innovation, it's not just about the technology, but also the design. And that's where design thinking companies like Frog and IDEO are also very active in Singapore and working with clients. Now, moving on to the interesting part as well for a lot of digital companies would really be, who are the end users of digital in Singapore? And here gives you an example of the companies that are very active in setting up digital centers of excellence in Singapore to work with solution providers. So Merck, for example, the American pharmaceutical company, they have set up a global innovation hub in Singapore to do digital innovation in terms of drug discovery, but also in terms of manufacturing and operational efficiency. Sembcorp is a local company. It's a power utility in Singapore, but with regional business. And they have also set up a digital team to support them in global asset management. GE has also decided to set up its Asia Digital Center in Singapore, which will serve as a hub for them to support their internal operations, as well as to work with customers to develop applications for the regional customers. Now, moving on into the startup ecosystem, which you've heard about, Singapore currently has over 5,000 startups, and we actually have seen a lot of the deal flow in Southeast Asia come through Singapore, which was 40% in total in 2016. Singapore is thus an effective hub for many of the Southeast Asian startups, and we also have our local grown startups, such as Grab Taxi, Garena, and Lazada, that have grown to unicorn status as well as had very successful exits with the likes of Alibaba, for example. Grab, in fact, recently just closed a $2.5 billion US funding round, and they are posing very real competition to Uber in Singapore. And you'll see that on the chart on the right that the VC funding in Singapore has really grown significantly in the last few years. So in the last few years, on an annual basis, it's over $1 billion. Now, to support the growth of the startup ecosystem, the government has also invested in creating that infrastructure and environment to support startup innovation. What you see on the slide here is the launchpad at One North. It is effectively one of the main startup hub in Singapore, where you will find many of the incubators and accelerators, co-working spaces. And we can't claim to be the biggest in the world, but we are the most dense in the world for this particular ecosystem. And this is also because of the proximity to universities like NUS, the proximity to many public sector research institutes, as well as to corporate R&D centers that are all within this region. If that's not interesting enough, there are also autonomous vehicles that are being trialed along all around the region as well, in partnership with the companies that are operating there. Now, I've talked a lot about innovation, startups, and what's really behind this drive is the talent in Singapore. You will see from the slide here that Singapore has been ranked number one in the world for global startup talent. And our universities have also produced large numbers of engineering and digital talent. So these include NUS and NTU, which have very strong roots in engineering and computer science. SUTD has a strong partnership with MTI, and they are bringing that combination of technology and design to a lot of the developments in digital. Apart from the universities, Singapore also has 5 polytechnics, and these polytechnics train students in applied skill sets related to computer science, cybersecurity, media and digital entertainment, for example. The other part that is a strong support to innovation in Singapore is really the research ecosystem in Singapore. Today, we have close to 32,000 research scientists and engineers in Singapore spread across the universities, the public sector research institutes, as well as corporate R&D centers. In terms of research institutes, a large number of them fall under the Agency for Science, Technology and Research, ASTAR in short, which is very similar to the CEA and CNRS in Singapore. And in the next slide, I will illustrate some of the partnerships they have with companies. But on the right-hand side there, you will see the $19 billion Singapore dollars funding round for 5 years of R&D leading up to 2020, which is very much channeled into 4 focus areas in advanced manufacturing, biomedical sciences, digital economy, as well as in urban solutions and sustainability, so very much the smart cities play. So here are some examples of what the Institute for Infocom Research, as well as the Institute for High Performance Computing, are doing in partnership with companies. So Visa, for example, they're working with I2R in fraud detection. Baidu is working with I2R as well for natural language processing technology, particularly for Southeast Asian languages. Rolls-Royce, on the other hand, is working with both I2R as well as the Institute for High Performance Computing on computational engineering and predictive maintenance for their engines. So you will see that what's unique in Singapore is actually the fact that the research institutes, the universities, are very, very industry-oriented, and a lot of their funding is conditioned on being able to find industry partners. Now, I come to the final slide of my presentation, where the intent here is really to show you examples of other French companies that are operating and active in Singapore in the digital space. It is by no means comprehensive, so if your company is not here, it's not that we don't like you. We're just trying to show the diversity. So Schneider, for example, they have their East Asia headquarters in Singapore and use Singapore as one of three logistics hubs. But in addition, they have also set up a 40-man software engineering team in Singapore that will support their different business units to create applications in energy and industry, for example. Airbus is working with Singapore to develop digital MRO capabilities, and they are also working with Singapore to pilot the use of drones for urban delivery applications. Now, NG and EDF are both very active in Singapore as well. NG has its Asia, its only lab in Asia in Singapore, and is working very actively with Singapore in the area of smart energy and microgrids. EDF, on the other hand, is working with Singapore on smart sustainable city solution, and they have worked closely with the Housing Development Board in Singapore to look at the design of future estates in Singapore and making sure it's optimized for energy, water, and waste. What is very interesting is also the fact that French companies are actively working together in Singapore through a platform such as Open Innovasi, where the companies have come together on their own to launch a platform that will work with startups. So they have an annual call for collaboration. And very soon you'll also see that Systemix is setting up a satellite center in Singapore to facilitate innovation with the French companies as well as the research ecosystem in Singapore. So I hope that provides you with a good level of details and understanding of the ecosystem in Singapore. And I'll be happy to take any questions that you may have. Thank you.
Thank you very much, Andrea. Je vais demander tout de suite à Ethan Pierce et à, excuse-moi, Mathieu Hamel de nous rejoindre tout de suite sur la scène. Andrea, je vous propose de redescendre, de vous situer en bas. On va faire les questions après. Go down and we will make the answer and question just after. S'il vous plaît, messieurs, installez-vous. Donc, Mathieu Hamel, créateur de Innovation Everywhere, donc il va nous expliquer, et qui est sur Singapour et également la Chine, Shanghai. Et Ethan Pierce, donc, qui est toujours, mais pas pour très longtemps, chez Nest VC Venture, et qui va nous parler un petit peu de l'investissement à Singapour. On démarre avec toi, Mathieu. Donc, explique-nous un petit peu ce que vous faites chez Innovation Everywhere et surtout, comment vous accompagnez des boîtes à Singapour pour leur développement digital et innovation.
Bonsoir. Donc effectivement, on est installé à Singapour depuis 2012. On est une agence de conseil en innovation spécialisée sur l'Asie. On a trois domaines d'activité qui correspondent effectivement à l'exploration qu'on peut avoir dans cette zone-là, que sont des études de tendance, donc comprendre les grandes tendances de l'innovation en Asie et en Asie du Sud-Est, et le fait de le faire à Singapour présente un certain nombre d'avantages que je vais vous détailler ensuite. Et puis, on organise des learning expéditions. Donc là, c'est destiné à des dirigeants ou à des comex d'entreprises qui souhaitent se déplacer dans la région pour mieux comprendre l'écosystème, pour rencontrer effectivement les acteurs locaux, les acteurs étatiques également locaux à Singapour qui mènent des politiques publiques extrêmement fortes et extrêmement proactives pour l'innovation. Et puis les aider à en tirer des points de vue stratégiques, c'est-à-dire soit dans l'optique de se projeter dans la région, soit dans l'optique de capter des tendances qui vont venir les aider à développer de nouveaux modèles sur leur marché domestique, que ce soit en France, en Europe ou parfois aux États-Unis. Dernier domaine d'intervention, on en a deux en réalité, c'est des programmes d'intrapreneuriat et de digital transformation, mais dédiés à la région. Donc dédié à des filiales locales, et puis un software, alors c'est un outil qu'on a destiné à des entreprises qui développent des relations avec des startups, donc c'est un software qui aide à orchestrer la relation entre les startups et les grands groupes, et à identifier, à évaluer la création de valeur qui est générée par les startups. Donc pourquoi on a été à Singapour ? On a créé l'agence, je l'ai créée avec un associé en 2012. On s'est posé la question, on était en France, on avait donc déjà des clients en France, et on s'est posé la question de savoir quel était le meilleur endroit en Asie pour pouvoir s'implanter. On a mis en concurrence très rapidement Hong Kong et Singapour. Hong Kong, qui en réalité est un hub qui s'ouvre plus vers l'Asie du Nord et notamment la Chine, donc c'est vraiment de la porte d'entrée vers la Chine. Et puis Singapour, qui à l'époque était un hub régional également sur l'Asie du Sud-Est. Notre choix s'est porté sur Singapour. Pourquoi ? Parce que d'une part, Hong Kong présentait des aspects au niveau culturel peut-être plus compliqué à gérer pour nous, surtout à partir du moment où on est dans le conseil, et donc on doit développer un réseau et un réseau relationnel fort. Et puis Singapour nous a paru plus innovant, plus stable aussi, avec des politiques publiques qui sont très favorables aux entrepreneurs. Et finalement, l'installation à Singapour a été une évidence. Aujourd'hui, on ne le regrette pas, puisque Singapour a pris énormément d'ampleur sur les sujets innovation. Pour vous partager mon ressenti sur le fait d'être entrepreneur à Singapour, je pense qu'il y a des aspects culturels forts chez Singapour. Notamment une culture de la performance, d'ailleurs qu'on retrouve dans le discours de l'ambassadeur, qui parle de garder une longueur d'avance, d'avoir des visions long terme. Je te rejoins sur le fait que seuls l'Estonie, Israël et Singapour ont des visions long terme et des visions d'avenir. Eh bien, ça se sent. Ça se sent quand on est entrepreneur là-bas. Ça se sent aussi dans les relations qu'on a avec les différents organismes de développement. Et nous, on le sent d'autant plus que lorsqu'on organise un learning tour pour un grand groupe français, eh bien, on va avoir un accueil extrêmement favorable des organismes de développement locaux, des incubateurs, des accélérateurs, et puis de tous les labs qui sont en création ou déjà créés et porté par des grands groupes. Alors les labs, il y en a énormément, il y a certains que tu as visités, Unilever pour ne pas les citer, Visa, et puis des accélérateurs comme Nest et Ethan qui nous en parlera après. Là aussi, ce qui est particulier à Singapour, et ce que nous on a vu depuis 2-3 ans, c'est le développement d'un vivier de talents, d'une population de start-upers et de freelancers. Ça va de pair avec l'installation des coworking spaces. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y avait 5 coworks à Singapour. Aujourd'hui, il y en a 50. Donc, on les a multipliés par 10 en 2 ans. Donc, c'est une croissance assez forte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces coworks, eh bien, il y a des freelancers, il y a différents talents, différentes compétences qui sont disponibles et qui vont alimenter le tissu économique et le niveau de compétences. Le dernier point, et c'est aussi un aspect que nous, on partage avec nos clients, c'est que Singapour a une culture de la projection vers l'extérieur qui est très forte. Ça se ressent dans les partenariats, et là on en a vu un certain nombre. Il y a la culture du partenariat, ce sont des créateurs de liens pour le business, et on le sent très fortement. Ils ont la culture des partenariats, et ça se voit par exemple dans les partenariats qu'ils font au niveau universitaire, dans les partenariats publics-privés qui sont généralisés dans les grands domaines de recherche, et puis dans l'exportation de concepts, notamment Smart City. Il y a des liens qui sont faits entre Singapour est la seule ville dans le monde qui s'exporte en tant que concept, en Inde, en Chine, et donc ça crée vraiment l'idée d'un laboratoire qui va rayonner au niveau régional et au niveau asiatique.
Merci beaucoup Mathieu. Quand même un conseil, si ici des entrepreneurs souhaitaient aller s'installer à Singapour, est-ce que tu as 2-3 conseils à leur donner, des précautions à prendre ou des bonnes pratiques à appliquer?
Alors tout dépend du business et puis du stade de développement. Quand on est entrepreneur, freelanceur, c'est peut-être une situation, la situation la plus simple. Faut effectivement, il y a le train de vie quand même assez coûteux, mais vous pourrez créer une société, vous pourrez développer votre business, ce sera plutôt favorable. Et il y a des aides, notamment des aides sur le marketing, des aides des aides à l'export, voilà, des conditions assez favorables. Si vous êtes une start-up, là effectivement, il faut avoir les reins solides pour pouvoir se projeter, parce qu'il y a des angles morts. notamment sur les talents. Les talents coûtent cher, très cher. Si on veut les faire venir à Singapour, c'est encore plus cher. Donc il y a des problématiques liées au recrutement qui peuvent être un peu complexes. Mais là encore, je pense à une start-up qui est une pépite française qui s'appelle Shift Technology, qui fait la détection de fraude, qui est une pépite technologique de très très haut niveau et qui s'est installée à Singapour il y a un an, je crois, et qui a été très fortement soutenue par les pouvoirs publics.
Merci beaucoup. Il faut rappeler aussi que parmi les 5 licornes qui existent dans l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, 4 viennent de Singapour quand même. Donc ça prouve que le système de scale-up fonctionne bien. Justement, c'est une bonne transition. Ethan, donc Ethan, toi tu es dans le monde du venture capitalisme. Vous êtes présent avec Nest à Singapour. Est-ce que tu peux, et tu as une vision mondiale, puisque on s'est vu un peu partout dans le monde finalement, et on a travaillé ensemble aussi bien à Las Vegas qu'à San Francisco, à New York ou à Paris et en Asie. Donc, quelle est un peu pour toi la vue de Singapour en termes de financement?
Donc, peut-être juste pour expliquer un petit peu de pourquoi, au niveau de contexte, pourquoi je passe du temps à Singapour et tout ça. Donc Nest, c'est un fonds d'investissement basé à Hong Kong qui est un peu le plus grand partenaire en programme d'innovation et accélérateur. On a fait quelques douzaines d'accélérateurs et programmes d'innovation avec des grands groupes comme OCBC Bank, DBS Bank, qui sont les deux plus grandes banques de Singapour, AIA Assurance, Nissan Infinity. On a fait un programme de smart mobility cet été à Singapour, et on vient de finir juste là un programme avec Singapore Power sur l'énergie tech avec 7 autres grandes utilités de partout dans le monde. Et après, je pars là fin de semaine. Je vais annoncer en octobre, plus officieusement, un fonds basé à Palo Alto de 150 millions de dollars pour l'intelligence artificielle et l'industrie 4.0, mais à déployer en Europe, Israël et l'Asie Sud-Est. Donc, moi, entre Paris et Singapour, pour vraiment regarder les opportunités dans ces endroits où le deep tech explose, et c'est vraiment la France et Singapour qui sont à la tête de ça, donc ça connecte un peu tout ça. Au niveau d'opportunité financement pour une start-up, bon, aujourd'hui je pense qu'il y a c'est facile à voir beaucoup d'opportunités dans le monde pour des start-up. Où est-ce que je vais mettre la plupart des startups, ils ne se demandent pas où je vais mettre ma startup. C'est peut-être un des premiers problèmes. Mais si on prend le temps pour regarder stratégiquement où il faut mettre ma boîte, je pense que aujourd'hui c'est très facile. C'est soit Silicon Valley, c'est la région stratégique dans ça, mais c'est moins en moins important. Et hors ça, c'est soit Paris, soit Singapour, ou peut-être les deux. Parce qu'au niveau d'opportunité, au niveau marché, l'Europe avec Paris et l'Asie Sud-Est grâce à Singapour, je pense que c'est très facile comme choix de choisir ces deux pour développer une entreprise. Et ce pont entre la France et Singapour, c'est quelque chose que je trouverais pas mal en ce moment pour aider les entreprises à avoir l'opportunité d'investissement de l'autre côté, peu importe la direction, et aussi l'opportunité en développement avec les grands groupes pour scaler ces entreprises qui sont en B2B, B2B2C. Donc au niveau financement, on a vu déjà les statistiques, il y a pas mal d'argent qui est disponible maintenant à Singapour. La plupart de cet argent est quand même dans les grandes familles au niveau family office. La plupart des fonds sont en early stage, donc il y a beaucoup de fonds en seed et série A, donc les trucs à 10, 20, 30 millions de dollars. Il y a un vide là entre série A et série B. Il n'y a pas assez de fonds encore, mais ça arrive. J'espère que je vais apporter peut-être un peu de ça avec le nouveau fonds. Aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de Grab et ou Gojek qui, sans expliquer, un peu Grab pour moto, Uber pour moto avec beaucoup d'autres services, mais seulement en Indonésie, mais qui vient de lever 1,3 milliard il y a quelques mois. Donc, et ça donne un aspect un peu pas exactement correct sur l'argent déployé et disponible, parce que là, 1 milliard mis dans Grab, c'est une chose, mais entre ça et les 2 millions mis dans une start-up ici, il y a un grand vide. Mais je pense qu'on y travaille, je pense que les gens comme EDB, Spring, le gouvernement, il y a beaucoup d'opportunités là. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement encore très facile, c'est jamais facile, mais aussi facile qu'il faut être peut-être de lever l'argent qu'il faut. Mais ce qui est très intéressant, c'est même si je suis investisseur, je suis pas nécessairement pour l'idée de lever l'argent en capital risque, parce que pour une start-up, ça coûte cher et c'est pas nécessairement bon pour la société si ce n'est pas exactement, si ce n'est pas une offre un peu saine pour eux. Donc ce que j'adore avec Singapour et dans la région, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, un peu comme en France, beaucoup de l'argent disponible un peu gratuit au niveau du gouvernement avec Spring ou autre chose. Donc ça, c'est une façon d'un peu développer au début, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'opportunité à scaler une startup grâce à tous ces grands groupes qui sont à Singapour pour la région. Donc en fait, de ne pas scaler une entreprise grâce au capital qui a été donné, mais de scaler une entreprise grâce à l'opportunité commerciale qui existe avec ces groupes. Donc pour une startup française qui veut développer les affaires en Asie Sud-Est, ou pour une startup basée à Singapour qui veut commencer et développer grâce à ça. Donc cet accès aux affaires et non pas juste du capital est très utile pour scaler ces entreprises.
Est-ce que tu as des exemples de startups que tu as pu croiser ou accompagner françaises qui ont été successful, ou toi Mathieu, enfin un de vous deux, et deux, est-ce que les investisseurs français, les fonds d'investissement français regardent un peu ce marché?
Donc, au niveau exemple des startups françaises, pour l'instant, il y a deux choses. Si on définit une startup française pour une startup fondée par un Français, oui, il y a pas mal de choses. Une startup dans le co-living qui est fondée par un Français qui va lancer très vite là un investissement de 1,5 million US pour développer. Ils sont à Singapour et en Japon, mais non, ils vont développer beaucoup plus rapidement. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est les startups françaises qui vont à Singapour pour faire des affaires. Donc c'est plutôt un bureau commercial pour développer dans la région. Donc il y a les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de statistiques à citer sur le développement d'affaires grâce à Singapour et dans la région. Mais je pense qu'on arrive vite d'avoir les startups fondées à Singapour par les Français, ou les startups fondées par n'importe qui, mais qui vont scaler plus à Singapour. Mais on est un peu au début de l'aventure au niveau de startups qui développent bien là. Il y a quelques bonnes histoires, mais ils ont fait, le gouvernement a fait un super tissu de tout ce qu'il faut pour que maintenant, c'est un des meilleurs endroits pour développer une société. Maintenant, il faut juste avoir des entrepreneurs qui profitent de ça et scalent quelque chose bien.
Ok, merci Ethan. Mathieu, est-ce que tu as, toi, belles histoires ou...
Nous, on accompagne surtout des grands groupes plus que des startups. Mais c'est vrai que Singapour, c'est une porte sur l'Asie. On est à 3-4 heures d'avion de 600 millions de personnes, en gros. Et puis, si on étend à 4-5 heures d'avion de 4 milliards de gens, donc c'est énorme. On accède à l'Inde, qui est le petit frère chinois qui va exploser dans 15 ans, et à la Chine. Donc, on a vraiment une situation idéale pour une start-up qui veut ouvrir effectivement un bureau commercial et accéder à de plus gros marchés. Voilà.
Juste pour, si je peux ajouter, juste un petit truc. Ce qui est très intéressant pour un Français quand ils arrivent, ou pour tous les autres expats, c'est que le French Mafia, comme on dit un peu là-bas, est fort. À Singapour, si ce n'est pas un Australien ou un Nouveau-Zélandais qui travaille dans le grand groupe, c'est un Français. Les Français
donc
sont Australien, vraiment partis. Je
ne
sais pas quel, au niveau expat, quel pourcentage au niveau c'est deuxième ou troisième, mais c'est une des plus importantes populations au niveau expat. Et donc, soit dans les grands groupes, qui pour une start-up qui est B2B, B2C, c'est les relations B2B, B2C, ce sont des relations très importantes qui sont un peu facilitées parce qu'ils sont français. Et la quantité des gens dans l'écosystème d'innovation qui sont français. Je vais aux événements start-up à Singapour et ça arrive que ce n'est pas un événement French Tech ou français, mais qu'un tiers des gens, ce sont des Français.
Ok, tu veux
juste pour ajuster, il y a effectivement la communauté française est extrêmement active. C'est aussi un vivier et un accès en termes d'information qui est très fort. Donc c'est aussi dans l'idée de se projeter, bah, c'est des connexions. Et puis juste aussi pour dire que le mindset de l'entrepreneur là-bas est très international. 35% des startups, enfin des entrepreneurs à Singapour sont étrangers.
Ouais.
Donc il y a un vrai mix culturel sur la culture de l'entrepreneuriat.
Oui, absolument. Et même l'ambassade de France et l'ambassadeur est très intéressé et travaille beaucoup sur le développement de l'innovation et des relations donc, entre la France et Singapour dans ce domaine-là. Donc, il y a une communauté French Tech très active également à Singapour. Donc, c'est vrai que pour atterrir là-bas et avoir un coup de main au départ entre les grands groupes, la communauté, l'ambassade, etc., il y a un environnement qui est très favorable, un peu comme aux Philippines par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer, la communauté des Français qui est là-bas depuis longtemps et qui connaît bien. Le temps tourne, enfin l'heure tourne, le temps passe, et avant de rejoindre notre cocktail, est-ce que vous avez une ou deux questions à poser dans la salle, sachant que nos amis seront avec nous pour boire un verre, si vous avez des questions évidemment, et monsieur l'ambassadeur aussi, d'après ce que j'ai compris, restera un petit moment, s'il a le temps, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Non, mais écoutez, je vous invite à nous retrouver au buffet, devant un verre, ça délie les langues. On a plus de, finalement, envie de parler. Je vous remercie toutes et tous d'être restés tard. On a pris un peu de retard. Et j'espère vous revoir à la prochaine présentation. Merci. Et merci à mes invités. Merci beaucoup. Hein.